tout ça, ça m'a menée à être très très malheureuse et à souffrir énormément. Et donc aujourd'hui, bah, je travaille à inverser le truc et à me dire, bah, en fait, si tu veux rendre les gens autour de toi heureux, commence par être heureuse toi-même.
Championne du monde !
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Hello tout le monde! Je crois qu'il est de coutume de vous souhaiter une très belle année 2022. Que cette nouvelle année vous apporte une multitude de petits bonheurs dans votre vie professionnelle et personnelle. Et je nous souhaite, de notre côté, de continuer d'avoir des auditeurs et auditrices aussi chouettes et bienveillants que vous. On est plus qu'heureux de passer une nouvelle année à vos côtés, qu'on vous promet riche en nouvelles interviews, contenus, et rigolade, bien sûr. Et on voulait commencer l'année avec un épisode qui nous a énormément touchés et qui nous semblait totalement à propos, dans une optique de nouvelle année, souvent synonyme de nouveaux cycles et de prise de conscience. Notre première invitée de 2022 s'appelle Laura Marino. Elle est plongeuse, a passé de nombreuses années en équipe de France à se dédier corps et âme à son sport, jusqu'à un matin où le corps et la tête ne peuvent plus. Où la rupture se fait irrémédiablement après des années de souffrance psychologique, dont on n'avait pas forcément conscience. Laura Marino, c'est l'histoire d'une sportive qui a fait un burn-out. Mais c'est surtout l'histoire d'une femme passionnée qui a décidé de prendre soin de sa santé mentale. Qui a décidé que tous ces moments difficiles n'étaient pas vains, mais allaient l'emmener vers de plus beaux horizons, avec lesquels elle serait totalement en phase. Le sport, particulièrement à haut niveau, peut être un merveilleux outil de développement de soi, un catalyseur de bonheur. Mais comme dans beaucoup d'autres domaines, les dérives peuvent être nombreuses et surtout insidieuses. Il est donc important pour nous de mettre en lumière ces histoires contrariées pour les rendre visibles, pour montrer que la souffrance psychologique existe, qu'elle est malheureusement monnaie courante et qu'il ne faut pas en avoir honte. Laura a décidé d'en faire une force et c'est ce message que nous souhaitons faire passer. Elle a décidé de partir à la reconquête d'elle-même et de son amour pour son sport, en partant plonger dans des endroits extraordinaires pour renouer avec cette notion de plaisir. Quand sortir la tête de l'eau n'a jamais eu autant de sens. Salut Laura !
Salut Cléo !
Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Bah merci d'être venue, je suis trop contente parce qu'en plus vraiment limite on t'accueille quasiment à la sortie de l'aéroport.
Ouais, quasiment, je suis rentrée hier et je pars dans 3 jours donc... C'était un timing parfait.
Tu reviens d'un long périple, j'allais dire. Pas si long, mais pas quand si même un beau périple en tout cas.
Ouais. Je reviens d'un mois à La Réunion pour un projet pro autour de ma nouvelle activité de plongeuse freestyle, on va dire, et créatrice de contenu digital. Donc j'ai trop hâte de pouvoir partager tout ça, que ce soit de le raconter ou de montrer nos contenus créés.
Bah, écoute, t'es un peu ici pour le raconter.
Ouais. C'est vrai.
Je suis trop contente du coup de pouvoir vraiment l'avoir quasiment sur le vif à chaud et que tu puisses raconter tout ça parce que c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses sur la dernière année, j'ai l'impression, pour toi ta vie.
Ouais, carrément. Je sais même pas par où commencer parce que j'ai envie de dire il y a un an, mais en fait pour arriver à il y a un an
il faut repartir au début. Et bah écoute, ce qu'on va faire du coup c'est que limite on va repartir quasiment au début parce que je trouve que c'est intéressant.
Okay, vous avez 4-5 heures devant vous.
Alors écoute, en temps normal le podcast font une petite heure.
Ok, je vais essayer d'être concise.
Mais c'est pas grave, en même temps on peut dépasser aussi un petit peu. Alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un peu à la genèse, qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens finalement.
Là,
tu
parlais de... c'est un vaste sujet aussi.
Ça va devenir un podcast psychologique à la fin. Tu parlais de plongeon, donc Laura Marino, ça parle peut-être pas à tout le monde. Tu viens effectivement du plongeon.
C'est ça.
T'as été sportive de haut niveau.
Ouais. Alors pour les grandes lignes, j'ai été multiple championne de France, vice-championne d'Europe en 2015. Donc ma spécialité, c'était le plongeon à 10 mètres en piscine. Qui est une discipline olympique. Donc, j'ai fait les Jeux Olympiques en 2016 à Rio et j'ai été championne d'Europe et championne du monde en mixte avec Mathieu Rosset en 2017. Voilà, et j'ai arrêté cette carrière que j'aime appeler conventionnelle ou olympique, parce que c'est des mots qui parlent un peu plus, en 2019, en mars 2019. Donc, j'allais dire ça fait un an et demi, mais non, en fait, ça fait 2 ans et demi.
Le temps passe. Le temps file.
Et depuis un an, j'ai commencé une reconversion, on va dire. Alors, j'avais préparé une reconversion professionnelle classique, on va dire, ou normale, parce que je suis kiné. Donc, j'ai commencé à exercer en tant que kiné. Et puis, en fait, très rapidement, la passion du plongeon m'a rattrapée. Et je me suis rendu compte que j'avais arrêté ma carrière parce que j'en avais marre du haut niveau et de l'excellence et de la performance et des milieux un peu aseptisés, c'est le cas de le dire, hein, les piscines chlorées, est bien dans de l'aseptisation. Et en fait, la passion du plongeon qui est tellement importante et qui est tellement... j'arrive même pas à me dire des mots, mais viscérale, en fait, chez moi, m'a rattrapée. Mais j'avais pas non plus envie de reprendre, tu vois, parce que je savais pourquoi j'avais arrêté et c'était pas quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et donc, en fait, petit à petit, j'ai recommencé en fait à plonger et par des voyages. Et mon format, en fait, c'est de plonger en pleine nature, sans compète, pour l'instant. On verra où ça me mène. En pleine nature et avec le voyage et de la création digitale, que ce soit photo, vidéo, écriture, en fait, raconter ce que je fais, quoi.
J'aimerais bien qu'on revienne du coup un peu sur les débuts, parce que de revenir sur ta carrière... traditionnelle, ta carrière olympique, comme tu disais. t'as commencé par la gym, je crois. T'étais pas au tout début, c'était pas le plongeon, et on t'a dirigé vers le plongeon via une de tes entraîneurs, je crois.
Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai fait de la gym, j'ai commencé il y a 8 ans à peu près, tout simplement parce que je suis arrivée dans une classe où les copines que je me suis faites faisaient de la gym et que j'avais envie de faire avec elles. Ouais. Et puis rapidement, en fait, j'en ai fait de plus en plus parce que ça se passait bien et que j'aimais ça et que les entraîneurs, ils me proposaient de faire plus d'entraînement. Et puis j'ai atterri dans un club, toujours en suivant mes copines, qui étaient orientées, pas haut niveau, parce que après avoir fait du très haut niveau, je me dis que j'aime bien dire que c'était de l'intensif, parce que je m'entraînais quand même tous les jours. Il y avait un groupe qui était horaire aménagé et elle faisait 20 heures par semaine. Moi, je faisais 15 heures par semaine et chaque vacances scolaires, c'était toute la journée.
Ce qui est déjà énorme.
Oui, ce qui est déjà énorme. Le truc, c'est que après, quand j'ai connu le haut niveau à l'INSEP, je me dis, c'est quand même pas pareil, mais à ce moment-là, moi, je pensais pas faire, enfin, j'avais pas conscience de tout ça, mais juste, j'avais un groupe de copines, j'adorais faire de la gym, et puis voilà, quoi. Et en fait, un jour, ça s'est terminé parce que ce contexte-là a changé, comme la vie évolue, hein. Certaines copines ont arrêté, l'entraîneur changeait, et puis, en fait, ça a un peu terni mon plaisir, et donc, j'ai eu envie d'arrêter.
J'avais lu que même t'avais été dégoûtée, finalement.
Ouais, carrément, presque en 2 semaines, hein, en fait, le fait de changer de groupe et d'entraîneur, ça m'a pas dégoûtée, mais en tout cas, j'avais plus aucun plaisir et je me rappelle j'avais commencé à le sentir à la fin de l'année, au début de l'été. Et en fait, quand on a repris fin août, je me souviens de cette journée de reprise où on s'entraînait de 9h30 à 17h et avec une pause, hein, quand même, au midi, le midi, d'avoir regardé la pendule, mais franchement, mais toute la journée, chaque 5 minutes, j'étais là, allez, plus que tant. Et le soir, ma mère, elle est venue me chercher, je lui ai dit, j'y retourne pas. Je les avais un peu préparé l'été, donc ils s'y attendaient, mais et en fait du jour au lendemain j'y suis pas retournée. Mais j'avais quand même cet amour pour le sport acrobatique. J'avais quand même certains trucs que je kiffais bien dans la gym, mais que j'avais envie de retrouver ailleurs. Et en fait,
t'avais des prédispositions aussi. Tu sentais que t'avais des facilités pour ce genre
peut-être,
de.
Peut-être. Je sais pas trop en vrai. Parce qu'avec le recul, tu vois, j'étais loin d'être la meilleure du groupe de gym. Hein. J'étais presque la moins bonne de ce groupe-là, donc. Je pense pas que j'avais un talent particulier, mais en tout cas, j'adorais ça, donc peut-être que ça joue. Et en fait, donc l'entraîneur qui changeait, elle repassait entraîner au plongeon, parce qu'elle avait eu ce double parcours gym-plongeon. Et il y avait une copine qui la suivait, et donc en fait, j'ai essayé avec elle, et ça a été le coup de foudre.
Tout de suite.
Ouais, premier entraînement. Et puis surtout, j'ai senti ce contraste entre l'entraînement de gym, où j'avais regardé la pendule toute la journée, et ce moment où Estelle me dit... Bon, bah, les filles, dernier plongeon, c'est l'heure. Et moi, la regarder avec des yeux énormes.
Mais non!
Quoi? Mais on vient d'arriver! Et c'est là où je me suis dit, OK, bon, je crois que j'adore ça.
T'as été mordu direct par cette discipline. Exactement. Comment ça s'est fait l'évolution? Parce que j'imagine que tout début. T'avais quel âge quand t'as commencé le plongeon?
14 ans, je crois.
14 ans? Ouais. Ils vous mettent, alors, le 10 mètres à différentes hauteurs, je sais pas comment on dit d'ailleurs.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Comment t'es arrivé au 10 mètres? Parce que c'est quand même assez spécifique aussi. 14 ans, je me rends pas compte aussi d'ailleurs si pour le plongeon c'est tard
ou si finalement c'est un âge assez normal et que souvent on passe par d'autres disciplines aussi avant d'arriver au plongeon?
Ben oui et non, il n'y a pas de vraie réponse à cette question. C'est que bah, comme tout sport de haut niveau, c'est mieux de le commencer tôt. Mais le problème, c'est qu'en France, il y a peut-être 3 piscines où tu peux faire du 10 mètres.
D'accord.
Il y a très peu de structures, très peu d'encadrement et les collectivités suivent pas du tout sur le soutien pour développer cette discipline. Et en fait, les installations, elles se ferment les unes après les autres. Et du coup, il n'y a pas vraiment de structure pour pouvoir... de formation, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le plongeon français, il vaut mieux faire de la gym et ensuite passer au plongeon. Mais la transition, elle n'est pas évidente et accessible à tout le monde non plus. Donc, il ne faut pas la faire trop tard. D'un point de vue purement théorique, pour moi, l'âge, c'était un peu tard.
Okay.
Mais il se trouve que j'ai réussi à faire une très bonne transition assez rapide, donc ça a fonctionné pour moi, mais ça a pas fonctionné pour tout le monde. Il y en a qui l'ont fait plus tard, ça a pas marché. Il y en a qui l'ont fait plus tôt, ça a pas marché non plus. Enfin, il y a pas vraiment de règles, mais disons que la gym reste une très bonne base pour le plongeon, même si bah ce serait mieux d'avoir une école de plongeon
dès le plus jeune âge. Ça existe pas en France.
Si, ça existe, hein, mais bah, notamment le club dont je suis issue, le Lyon Plongeon Club, qui est un des seuls clubs formateurs depuis le plus jeune âge, on va dire, mais je crois que c'est le seul aujourd'hui pour faire de la compète après, parce que bah en fait pour faire de la formation il faut avoir des partenaires au niveau de l'école, il faut avoir des créneaux toute la journée, et puis les créneaux en fait de piscine, ils sont dépendants des collectivités, des clubs de natation autour, et bref, c'est
compliqué.
C'est très compliqué le plongeon en France.
ça a l'air.
Ouais.
Et comment t'expliques, toi, que tu disais qu'il y avait des gens qui avaient commencé avant toi, d'autres après toi, que ça n'avait pas forcément marché? Comment t'expliques que pour toi, ça ait marché en fait hyper rapidement?
Alors, c'est difficile à expliquer, mais je pense que c'est une alchimie de plusieurs facteurs. Je pense, déjà, j'étais passionnée, l'envie, et je devais avoir quelques qualités quand même prédisposantes. Déjà, j'avais le bon gabarit.
Ouais.
Et ensuite, j'ai réussi à faire la transition. Donc, j'ai réussi à changer mes acquis de gymnastique pour les acquis de plongeon, en fait.
Ça veut dire quoi, le bon gabarit? Moi, c'est toujours, ça me fait toujours rire. Parce que c'est vrai qu'on, tu vois, on parle de la gym. Moi, j'en ai fait. Je sais que j'ai arrêté la gym parce que j'avais pas le bon gabarit. Parce que j'étais trop grande, par exemple. Et en plongeon, c'est quoi le bon gabarit?
Je me rappelle quand je suis arrivée. Moi, j'avais fait que du 1 mètre et du 3 mètres. Donc, qui est une planche qui rebondit. Parce que dans le club où j'étais, il y avait que ça. Et au bout de quelques semaines, Gilles, l'entraîneur de l'INSEP, il nous avait fait une petite réunion et puis il m'avait regardé avec son regard sévère là et il m'avait dit, toi, tu feras du 10 mètres. Bon, c'est comme ça dans mon souvenir, ça l'était peut-être pas vraiment, mais j'étais là. Ok.
D'accord.
C'est haut quand même, hein. Mais bon, après, ça a été hyper progressif. Après, du coup, le bon gabarit, c'est, en fait, le problème, c'est que c'est pas un problème, mais le 10 mètres, c'est le rapport poids-puissance.
Ouais.
Donc, plus t'es aérodynamique, c'est-à-dire plus t'es sèche, parce que la masse grasse, c'est du poids inutile, en fait, plus c'est. Enfin, mieux c'est. Et plus t'es grande, plus t'auras. Plus ton centre de gravité, il sera. C'est compliqué, mais pour tourner vite, on va dire, tu vas avoir plus d'inertie si t'es grande, mais pour déclencher tes rotations, ce sera. Plus facile si t'es petite.
D'accord.
Donc, à l'époque, quand je suis rentrée à l'INSEP, j'étais petite, toute fine et toute sèche et toute musclée. Et du coup, j'avais un bon gabarit pour faire du 10 mètres parce que du coup, très vive, très explosive et très, très sèche dans le sens faible masse grasse, donc rapport poids-puissance super bon. Quoi. Et puis, c'est de l'aérodynamique en fait. Donc, et à 10 mètres, en fait, comme c'est une plateforme en béton, ben, c'est à toi, c'est ton propre corps qui fournit toute l'énergie. Donc d'où le rapport poids-puissance. Bon, il se trouve qu'après j'ai quand même grandi et que je faisais partie des plus grandes du 10 mètres, mais je suis pas non plus grande.
C'est grande quand même.
Ouais, maintenant. Ouais. Je pense que ça m'a pénalisée à la fin de ma carrière. Bah ouais, parce que c'était plus dur. Qui dit grande dit plus lourde aussi.
Ouais.
Et puis grand segment, alors enfin grand bras, grande jambe. Alors c'est quelque chose qui était un de mes points forts parce que c'était plus élégant, mais c'était plus compliqué à mettre en mouvement quoi.
Il y a un truc aussi qui m'a fait tilt, parce que t'as dit, ton entraîneur qui t'a dit, toi, Laura, tu vas faire du 10 mètres. Genre, du coup, limite, ton arrivée dans ta discipline de prédilection, tu l'as pas vraiment choisi, on te l'a un peu imposé.
Ouais, non, je l'ai pas vraiment choisi, mais d'un autre côté, c'était logique, tu vois. Et puis, en fait, bizarrement, j'y ai pris goût assez rapidement, et là, ça s'est fait progressivement. Là, tu vois, je te fais quand même un...
un résumé.
Ouais, un résumé très très fort, et je le dramatise un peu, mais... j'ai tout de suite adoré. En fait, ce qui m'a tout de suite plu dans le plongeon, c'est la sensation de chute libre. Et du coup, à 10 mètres, ça l'était encore plus. Ouais. Donc ça fait peur, mais quelque part, c'est addictif. T'imagines même pas comment.
Non, j'imagine pas. Non, sincèrement, j'imagine pas du tout. Et déjà, je pense plonger à 10 mètres juste toute droite, voilà.
Donc, bah, attends, tu sais que je sais, enfin, aujourd'hui, ça serait un des trucs qui me ferait le plus peur. Si tu me donnes un panel de 10 plongeons à faire, le saut droit, je pense à 10 mètres, c'est un truc qui me fait peur.
C'est vrai?
Bon, j'exagère un peu peut-être, mais.
Ah oui, ça t'aurait.
En fait, on le fait jamais. Donc,
T'as l'habitude, en fait, de partir
ouais,
dans des.
Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, du coup. Bon, 10 mètres, je pense que ça va en saut droit, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, mon record, c'est 22 mètres de
ouais.
hauteur.
Ah, la vache.
Tu me demandes de faire un saut droit à 22 mètres, c'est pas la même histoire, hein. Franchement.
Ah, c'est fou, ça.
Ouais.
C'est fou. Écoute, bon, bah, défi.
Défi.
Prochaine fois, défi droit. Défi ouais. saut droit à 22 mètres.
Ouais, okay.
Pour continuer, du coup, donc tu rentres là quand tu. T'étais pas encore à l'INSEP ou t'étais déjà à l'INSEP là quand tu commences le 10 mètres?
Ah, si, je suis à l'INSEP parce
t'étais
que l'INSEP. C'est un des seuls endroits où
choix,
tu peux t'entraîner.
Donc, tu rentres à partir de ce moment-là, donc t'as 15 ans à peu près.
16. Ouais.
16 ans. Et tu rentres dans le système, dans l'élite du sport français et dans cette machine, si je puis dire,
ouais,
qu'est l'INSEP. Mmh. Comment tu le vis au début? Est-ce que c'est de la joie, de l'excitation? Est-ce que très vite, tu vas te rendre compte que finalement, c'est peut-être pas un truc qui te va très bien? Comment ça se passe?
Ben, en fait, comme tu dis, je rentre dedans et c'est un espèce de tourbillon qui m'aspire, quoi. Mais c'est très dur. Je me rappelle que le rythme intense, tu vois, passer du jour au lendemain à 25 heures d'entraînement par semaine, toute ta vie qui est organisée autour de ça, toutes les gens autour qui font tout pour optimiser tout ton entraînement, etc. Ça fait bizarre, mais d'un autre côté, j'adore chaque minute et je me pose aucune question et je suis attirée et happée par ce tourbillon-là. Et franchement, les 3-4 premières années, je les vois même pas passer. Il y a eu une petite pause sur ma deuxième année. Puis en plus, je fais des résultats super vite, en fait. Mmh.
Oui, du coup, c'est grisant, quoi.
Ouais, c'est grisant. Je vis des trucs incroyables. Je rencontre plein de gens tout le temps. Je voyage. Je rencontre des étrangers. Je découvre plein de pays. J'ai des résultats, en plus. Donc, je plonge super bien. Et je trouve mon plaisir aussi dans la performance, quelque part, et dans la réussite. Et parce que je vois aussi à travers mon entraîneur qu'il est content et du coup ça me rend heureuse parce que je fais bien ce qu'on m'a demandé de faire
ouais.
et puis je fais une médaille aux championnats d'Europe dès la première année, après je fais les championnats du monde, c'est des trucs que j'avais même pas osé imaginer en fait, donc c'est vraiment un tourbillon super positif. Il y a un petit frein parce que l'année d'après je fais un an de médecine, donc je mets un peu entre parenthèses, je fais une première année de médecine en fait. Ou qui se passe pas très bien, hein, sans surprise. Et du coup, je choisis le plongeon après ça. Et
Il y a quand même eu un moment donné où tu as dû faire un choix finalement entre tes études ou continuer le sport de haut niveau.
Bah ouais, parce que c'est quand même une première année de médecine, c'est quand même quelque chose un peu d'élite. Et le sport de haut niveau, c'est de l'élite. Donc tu peux pas faire deux activités d'élite et être à fond.
Mais tu peux pas dédoubler ton
temps,
quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, en me plongeant dans l'univers médecine, je me rends compte que j'ai pas envie de passer 10 ans. Pourtant, je suis très scolaire, je suis très bonne élève et tout, mais j'ai pas du tout envie de passer 10 ans à faire des études et à pas voir la lumière du jour.
Toujours dans l'univers médecine, j'adore.
Je dis ça?
Ouais.
Ah, ouais. Et je me rends compte que c'est pas juste la première année, tu vois. Et qu'une fois que t'es diplômée, faut quand même. Enfin bon, je fais ce choix en conscience. Et il y a eu des moments où j'ai regretté quelquefois. Enfin, pas regretté, mais où je me suis dit qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais fait l'autre choix. Mais ça a été franchement évident pour moi et je regrette pas du tout aujourd'hui puisque ça m'a amené tellement d'autres choses.
Mais du coup, tu fais ce choix du plongeon, tu vas être la première, si je puis dire.
Ouais.
On va faire beaucoup de métaphores et de choses
mais
comme
y
ça.
Il y en a beaucoup hein, dans la vie, tu te rends pas compte, mais.
C'est vrai.
C'est un vrai parallèle avec la vraie vie ou la vie pro ou tout ce que tu veux.
C'est vrai. Mmh. Et donc, tu vas à fond à partir de ce moment-là. Est-ce que tu parlais un peu de l'effet bonheur des premières années où tout se passe bien, où il y a des résultats, où tout va bien? À partir de ce moment-là où t'es alors un peu plus âgé, t'es sur ton début de vingtaine, hein, donc on peut pas vraiment parler d'être âgé, mais comment ça va? Comment les années d'après, elles se passent? Une fois que j'ai envie de dire finalement, t'as aussi plus la nouveauté des premières années où tu rentres dans le haut niveau, où tu découvres un peu tout ça, où tu fais tes premiers bons résultats, et du coup aussi, j'imagine qu'il y a une attente sur toi.
Ouais, c'est compliqué, c'est difficile de dire à quel moment ça switch. Je pense que c'est quelque chose. Enfin, je suis allé tellement profond que c'est très très progressif et c'est ce qui fait qu'en fait, au moment où tu t'en rends compte, tu te dis waouh, là il y a un sacré nœud et je suis bien bas là. Parce que le moment où tu le réalises, c'est emmêlé dans tous les sens. Et du coup, c'est très progressif avec plein de petits facteurs qui s'accumulent au fil des années. Parce qu'en fait, quand j'arrête ma carrière, c'est plus de 10 ans après. Plus de 10 ans après les premiers mois. Donc, t'as le temps d'en accumuler des choses en 10 ans. Je pense qu'il y a une première étape, c'est en 2012 quand je change d'entraîneur, malgré moi en fait, parce que c'est l'entraîneur que j'avais et qui m'a repéré et qui m'a un peu tout appris, qui s'en va et qui quitte l'INSEP par choix personnel. Donc là, je change d'entraîneur et tout de suite, c'est compliqué. On a un peu du mal à travailler ensemble. Je pense que lui, à ce moment-là, il avait à entraîner en tant que second qu'un an ou deux. Peut-être qu'il se sent pas prêt ou légitime. Et puis, il n'a pas une énorme expérience d'entraînement. Et du coup, très vite, ça se passe pas super bien. Surtout que à 10 mètres, c'est quand même un truc qui fait peur. Et t'as besoin d'avoir une confiance absolue en ton entraîneur. Quoi,
oui, parce d'être rassuré un peu.
D'être rassuré. Et en fait, très vite, cette confiance, en fait, je la perds. Et en fait, à partir de là, ça commence à... nos rapports, ils sont compliqués. Donc, j'ai envie de... Tu sais, c'est comme dans toute relation humaine. Il faut de la communication. C'est pas évident tout le temps, quoi. Et puis, comme on n'a pas le choix, entre guillemets... Et puis moi, je me pose pas la question, en fait, de est-ce que je peux pas aller m'entraîner ailleurs ou avec quelqu'un d'autre, parce que je suis à l'INSEP, lui, il est à l'INSEP, donc c'est comme ça. Et en fait, du coup, on essaye que ça fonctionne, mais en fait, au fil des années, on se rend compte que on creuse notre trou un peu. Et jusqu'au moment où je pars m'entraîner en Australie avec Mathieu, sans entraîneur, donc avec l'entraîneur là-bas, et où là, je rencontre un peu l'entraîneur de ma vie. Et du coup, c'est un peu comme si on me servait sur un plateau ce qui me manquait. Ce à quoi j'osais pas rêver, tu vois. Et c'est un peu, tu vois, t'étais dans ton truc, tête baissée, et puis d'un coup on te dit, mais attends, regarde, ça peut être comme ça en fait.
Ouais, c'est ça. Tant que tu l'avais pas vu, tu te disais pas que c'était possible.
Ouais, c'est ça. Et donc tu luttes et tu fais tout pour que ça marche, et en fait à un moment on te donne
on te montre.
On te montre que cette solution que t'espérais au fond de toi, ou ce modèle-là, il existe, et en plus il marche. Parce que après ces 2 mois en Australie, qui pour moi, on a l'impact de comme si j'avais passé un an là-bas, j'explose tous mes records de points, je fais vice-championne d'Europe, je fais des médailles en Grand Prix, je me qualifie pour les Jeux, et du coup je me rends compte à quel point, en fait, j'ai un potentiel de dingue, et le gars il a raison, parce que il s'appelle Chava, c'est l'entraîneur australien. Quand j'étais là-bas tous les jours, il me répétait que je pouvais être la meilleure du monde. Au début, le premier jour, il me dit ça, je le connais pas, je me dis mais
il est fou,
il fait quoi lui. Du coup, je rigole parce que je suis un peu gênée, et je me dis ah, la bonne blague. T'es gentil toi. Bon, t'inquiète, t'as pas besoin de me faire de me brosser dans le sens du poil et tout. Puis il me le répétait tous les jours, vraiment. À chaque fois qu'on se parlait, il me le disait, parce qu'il m'avait demandé mes objectifs. Mais il me disait, non, mais c'est pas une médaille aux Europes que tu dois viser, c'est championne du monde. T'as le niveau pour battre les Chinoises, qui sont un peu la référence et les imbattables dans notre sport, surtout à 10 mètres chez les filles. Et puis, en fait, quand on te raconte ça, on te répète ça tous les jours pendant 2 mois, ça s'installe un peu dans ta tête. Et puis après, derrière, tu fais des résultats que t'attendais pas du tout. Je te dis, la première compète inter que je fais après ce stage en Australie, j'explose mon record de points, tu vois, qui devait être à 310, un truc comme ça. Je fais 370 points, donc c'est énorme, tu vois. Je fais une médaille dans un Grand Prix qui est hyper relevé, et du coup, je me dis... Et là, en fait, à ce moment-là, ça switch dans ma tête, et je me dis, ah ouais, déjà, c'est possible autrement, et en plus, en fait, je peux viser bien plus haut que ce que mon entraîneur en France espère ou vise pour moi, tu vois. Et du coup, il y a un double décalage qui se crée, et à partir de là, c'est le début de la fin, parce que... on n'arrive plus du tout à fonctionner ensemble, quoi.
Je trouve ça hyper intéressant. Et pour revenir sur ce que tu dis, j'ai été confrontée du coup à un modèle que j'espérais, enfin en tout cas, parce que en France, on n'a pas trop creusé non plus. Mais c'est quoi en fait la manière, comment on t'entraînait, c'était quoi l'ambiance, c'était quoi la manière, les relations que vous aviez avec ton coach, avec les autres plongeurs, ça se passe comment?
En fait, je dirais que pour avoir beaucoup voyagé, déjà, je trouve que c'est assez cliché entre guillemets du modèle ou système français comme on peut l'attendre, c'est-à-dire vachement négatif, dans la critique négative et sans prise en compte de l'humain, versus le modèle anglo-saxon ou australien, où c'est dans l'abondance du positif, parfois trop, c'est vraiment, pour moi, c'est les deux modèles extrêmes, la bienveillance, et donc c'est aussi pour ça que quand il me parle au début en me disant « ouais, tu pourrais être la première du monde », une des meilleures du monde, je le prends avec des pincettes, parce que je me dis...
On t'a tellement pas habitué à ce discours-là que...
Je me dis « non, mais il force, là ». Et puis, en fait, je me rends compte à quel point, même, tu vois, les parents des enfants là-bas, ils étaient tellement tout le temps... Alors après, ça a ses défauts aussi, tu vois. Donc, c'est peut-être qu'ils sont un peu hypocrites. Le penchant négatif, c'est d'être... qu'il y a un peu plus d'hypocrisie que chez nous en France, quoique. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment ces deux-là. Et la différence fondamentale, en fait, c'est j'ai eu l'impression d'être prise en compte en tant que personne et en tant qu'humaine.
Ouais.
Tu vois. Alors que en France, après, je veux pas faire trop de généralité, mais c'est moi mais l'expérience que j'ai eue. Bah, tu vois, je veux pas dire non plus que en France, partout, c'est comme ça. Comme
les...
ça
oui, mais...
Que tous les Français sont comme ça. Mais quelque part, tu vois, j'ai quand même l'impression que c'est une dominance ou une un peu une généralité qui est quand même pas si fausse. Mm. Tu vois. Mais encore une fois, selon ma propre expérience.
Bien sûr.
Et en fait, de réaliser ce modèle-là, parce que je pense que peut-être il y en a à qui... Enfin...
À qui ça convient.
À qui ça convient. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point moi, un entraîneur qui était dans la bienveillance, l'écoute, la prise en compte de ce que je disais ou ce que je ressentais, sans être non plus écouter tout ce que je dis, hein. Attention, c'est pas ce que ouais. je raconte, hein, mais, ou à me plaindre toutes les trois secondes, c'est pas du tout ça et c'est pas du tout qui je suis et qui j'étais. Mais en fait... Ouais, de me sentir écoutée et dans la bienveillance, mais ça m'a tellement boostée, mais t'imagines même pas, quoi. Et du coup, je me dis, ben en fait, c'est plus agréable sur l'instant, et en plus, ça m'amène des meilleurs résultats.
Ouais.
Donc, enfin, pourquoi, en fait ? Enfin, ouais. Pourquoi je garde pas ça ? Et en fait, de réaliser ça, le retour, il a été hyper dur, parce que j'ai essayé d'y rester dans cette positivité, dans cette dynamique, mais c'était pas possible. Et puis en fait, j'avais vécu un truc qui est difficile à raconter. Et puis, je sais pas, en fait, ça a créé un fossé.
Ouais, c'est ça.
Je pense.
Il y a eu un décalage tellement énorme.
C'est pas quelque chose que tu peux expliquer ou apprendre. Enfin, tu vois, c'est.
T'en as parlé, ça t'a pu en parler avec ton entraîneur, par exemple ? Est-ce qu'à un moment. D'ailleurs, ça, c'est une vraie question. Est-ce que quand vous êtes sportif de haut niveau, vous avez la possibilité de communiquer finalement vos émotions, vos ressentis ? Est-ce que c'est des choses qu'on prend en compte ?
Bah, ben, je sais que j'ai essayé vraiment avec lui parce que j'ai eu conscience très très tôt. Que quand dans une relation humaine ça se passe pas très bien, la communication c'est la base de tout. Donc dès le début on communiquait vraiment beaucoup, mais en fait je pense que on était vraiment beaucoup trop différents et beaucoup trop incompatibles à ce moment-là en tout cas. Et puis quand je rentre d'Australie, j'ai pas le recul que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc tout ce que je te dis là, je pense que je l'ai en moi, mais j'en suis pas consciente au point de l'expliquer en long, en large et en travers et de faire un cours de. De système anglo-saxon ouais, ouais. À cet entraîneur-là. Surtout qu'en plus, lui, il avait une expérience d'entraînement en Angleterre. Puis quelque part, le fait aussi de voir qu'avec moi, ça marche pas, qu'il n'y arrive pas, lui, ça lui renvoyait un truc pas du tout agréable. Donc en fait, on est dans un espèce de cercle vicieux
ouais.
où on s'en sort pas, on essaye de... J'ai pas de regret parce que lui comme moi, on a essayé beaucoup de choses, tu vois, mais on a essayé de faire intervenir d'autres gens, d'avoir un espèce de médiateur, mais tu vois, en fait, quand t'es là-dedans, t'imagines toute l'énergie que tu mets là-dedans, que tu mets pas dans l'entraînement ou dans la perf, tu vois. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis, bon, bah, c'est juste que ça fonctionnait pas, lui et moi, et qu'on aurait dû, se séparer, entre guillemets,
ouais.
Mais en fait, comme c'est le plongeon en France, j'avais pas non plus énormément de possibilités. Et la seule possibilité que j'avais, c'était de me dire, ok, je vais m'entraîner en Australie.
Ouais, tu parles
sauf que,
tu l'as
21
pas
ans,
tu l'as pas envisagé.
Je me suis posé la question. Je me suis posé la question quand je suis revenue, mais j'ai choisi. C'est un peu comme médecine. Aujourd'hui, je pourrais le regretter, tu vois, mais j'étais en couple avec un gymnaste à cette époque. Bon, c'est pas un secret, hein, je suis restée presque 8 ans avec lui, qui s'appelle Jim Zona, qui fait encore de la gym aujourd'hui. Et il traversait quelque chose de très difficile d'un point de vue perso, tu vois, de sa famille. C'était compliqué. Et on était très amoureux à cette époque-là et je me voyais pas... Enfin, aller vivre en Australie, c'était
ouais.
terminer ça et l'abandonner et le laisser tout seul dans sa merde, quoi. Et en fait, ça, je pouvais pas l'envisager. Pour lui et pour moi, hein, parce que je me suis imaginée en Australie et je me suis dit, bah, c'est bien, peut-être que j'aurai tout ce qu'il me faut au niveau plongeon. Mais d'un point de vue perso, j'aurais rien, en fait. Et j'étais peut-être pas prête ou j'avais pas forcément envie de construire... une vie de zéro à cet âge-là, à l'autre bout du monde. Parce que j'ai réalisé aussi ce que c'était, tu vois. C'est pas aller t'entraîner à Berlin, tu vois. C'est,
ouais, ouais, t'es à l'autre
j'étais
bout du
à
monde,
Sydney,
ouais.
t'es à l'autre bout du monde. Quand il est 8h du soir, chez toi, il est, tes parents, ils dorment encore. Donc rien que pour communiquer, c'est compliqué, même à distance. Et pour moi, c'était pas possible. Alors,
ouais, t'as fait un choix.
Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est un choix pour les autres, tu vois.
Oui, c'est ça. J'allais utiliser le mot-là qui est peut-être... beaucoup trop fort, mais en un sens, tu t'es un peu sacrifiée quand même.
Ouais, je me suis sacrifiée, mais quelque part, c'est aussi parce que je me disais que je pourrais pas être heureuse sans eux. Tu vois, parce que à cette époque-là, mon bonheur, je le trouve dans le bonheur des autres, en fait. Mais alors là, je te parle de réflexions que, dont que j'ai conscience depuis, je sais pas, même pas quelques mois, tu vois, quelques semaines. Donc, je peux pas regretter parce que je me suis posé la question et j'ai fait ce choix en conscience, entre guillemets. Mais je pense que aujourd'hui, la solution, ça aurait été ça, tu vois. D'arrêter de lutter sur des relations humaines qui se passent pas bien et qui. Dans lesquelles t'arrives pas à t'en sortir, en fait, des fois, bah, juste, ça marchera pas, tu vois. Et il faut juste, ouais, quitter le truc, quoi. Sauf que. Il y avait trop de choses en jeu, il y avait trop de personnes en jeu et j'avais pas cette confiance en moi ou cette légitimité. Cette priorité que je mettais sur moi peut-être. Ouais. Et qui aujourd'hui s'inverse parce que en fait tout ça, ça m'a menée à être très très malheureuse et à souffrir énormément. Et donc aujourd'hui, bah, je travaille à inverser le truc et à me dire, bah, en fait, si tu veux rendre les gens autour de toi heureux, commence par être heureuse toi-même.
Tu dirais que du coup que cette période-là, qui était vraiment un sac de nœuds, tu l'as utilisé l'expression, ça a été le début de la fin de ta carrière de sportif de haut niveau.
Ouais, je pense parce qu'en fait, tu vois, c'est bizarre parce que cette période en Australie, ça remonte à loin. Hein, c'était fin 2014.
Ouais.
Pour moi, c'est pas quitte ou double, c'est quitter double. Mm. Tu vois, parce que dans un sens, ça me fait progresser énormément en tant que plongeuse. Techniquement, ça m'apprend plein de trucs, ça m'ouvre l'esprit de fou, mais ça signe le début de la fin aussi. Parce que, par tout ce que je réalise, en fait, par ce côté, du coup, où, en fait, j'essaye de revivre. Parce que comme je fais ce choix de rester en France, j'essaye quand même d'appliquer tout ce que j'ai appris et de le mettre dans mon... Mais en fait, envers et contre tous, tu vois. Et du coup, en plus, avec mes études de kiné en même temps, la pression des jeux, et en fait, je m'isole. Tu vois, je creuse mon trou tout seul.
Tu te mets une pression supplémentaire aussi de te dire j'ai fait ce choix-là, donc il faut que je l'assume, donc il faut que ça marche.
Ouais, et aussi je réalise à quel point je suis capable, en fait, de... Parce que jusque-là, le plongeon, pour moi, c'était que du bonus, et je me disais, oh, je progresse, oh, je fais des résultats, c'est trop bien. Puis je le voyais palier par palier, et en fait, ce moment où je fais 3e avec 370 points dans un Grand Prix hyper relevé, là, je me dis, en fait, il a raison. En fait, je peux être forte, en fait, je peux être la meilleure. Et en fait, à partir de là, ça devient plus une possibilité, ça devient un objectif.
Ouais.
Et si tu le réussis pas, tu rates, tu vois. Et du coup, je me...
C'est un objectif que tu t'es mis toi-même ou qu'on
t'a mis... Ouais, parce qu'on m'a dit que j'étais capable et que je l'ai compris, tu vois. Et en fait, si je le faisais pas, ça voulait dire que... Ça montrait que bah, c'est un échec, en fait, quelque part. Et l'échec ou l'abandon, c'est quelque chose qui était... que j'ai pas appris déjà. Et qui n'était pas envisageable dans tous les milieux que j'ai fréquentés, quoi. Que ce soit familial, à l'école ou... Parce que même en France, tu vois, on revient sur les modèles classiques ou des généralités. Pour moi, j'ai jamais eu le droit de rater. Que ce soit dans ma famille ou à l'école ou dans le plongeon, l'échec, c'était quelque chose de...
C'est proscrit.
De tabou, de mal vu, de mauvais, tu vois. Donc, pas envisageable, en fait. Et aujourd'hui... Bah, j'essaye de m'autoriser à rater, en fait. Et quand il y a un échec, de me dire, bah, c'est OK.
Et ça fait pas de toi une moins bonne personne.
Ouais, et puis, tu vois, là, c'est une super transition, parce que là, j'étais à La Réunion pendant un mois. Donc, c'était le premier projet qu'on montait professionnel, tu vois, essayer en cherchant des financements, tout ça, parce que jusque-là, c'était étape par étape. Et bah, tout s'est pas hyper bien passé, mais donc, j'ai un pote qui était avec moi dans le groupe dont je suis super proche et qui m'a répété tout le long, il n'y a pas d'erreur, que des enseignements. Et c'était un peu mon mantra là de ces dernières semaines. Et je trouve que ben, c'est un bon lien parce que aujourd'hui je m'autorise à rater. Parce qu'en fait, quand tu rates, ce qui est dur, c'est la honte ou la culpabilité.
Alors du coup, c'est quoi? C'est le regard des autres finalement, plus que d'ailleurs que les autres posent sur toi plutôt que.
Ouais, ou que ça te définisse, tu vois.
Ouais.
De se dire, ben, en fait. T'as raté ça, bah t'es nul, tu vois. Enfin, je fais un raccourci, mais alors que non, en fait, t'as raté, mais c'est parce que tu t'es lancé. Donc en fait, t'as réussi, t'as osé te lancer, et puis t'as raté. En fait, l'échec et raté, c'est hyper subjectif. Donc t'as raté quoi en soi? Donc en fait, essayer de voir aussi qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça va te permettre, qu'est-ce que tu vois, et pas le voir comme juste la culpabilité ou l'humiliation de ouais j'ai raté, je suis nul. Donc oui, il y a aussi le regard des autres, je pense, de dire... parce que tu vois, c'est par opposition à la performance, quand tu gagnes pas, tu perds, en fait. Quand tu perds, tu rates. tu vois.
Ouais, c'est marrant parce que c'est, en fait, ça fait le lien avec l'épisode précédent où c'était Nathalie Péchala.
Ok.
Et qui disait, qui expliquait une situation personnelle où sur les premiers jeux qu'elle a fait avec son partenaire, ils ont fini 7e aux Jeux Olympiques. Ils étaient surcontents d'avoir fait 7e parce que pour un top 10 à l'époque, c'était juste un truc de malade. Et que derrière, on les a juste mis plus back terre parce qu'ils avaient fait que 7e,
ouais.
Alors qu'eux étaient hyper ravis de la prestation. Et du coup, forcément, le premier truc que je lui ai dit, c'est ouais, donc en fait, du coup, il y a quand même un problème avec cette notion de performance, ce système français, de la réussite, de tout ça. Et qu'on on met pas le curseur au bon endroit, finalement, en fait. Enfin, ce système-là rend les athlètes malheureux, finalement, quand t'es pas au top du top du top.
Ouais, je sais pas trop. J'ai du mal encore aujourd'hui à faire une généralité, tu vois, sur le sport français
oui,
ou sur
bien
le.
Bien évidemment. Enfin, une fois, c'est compliqué de.
Bah déjà, c'est à prendre avec des grosses pincettes parce que ouais, c'est compliqué. Et puis déjà, moi, j'ai du mal à avoir du recul sur mon propre parcours, mes propres expériences, parce que c'est aussi lié avec plein de, tu vois, de. Je sais pas, moi, mon éducation, mon parcours perso, comment je l'ai vécu. C'est... Puis c'est aussi une histoire de perception et c'est hyper subjectif, tu vois. Donc, est-ce que... tu sais, quand t'es athlète de haut niveau et puis encore plus dans le patinage artistique par rapport au plongeon, je pense que t'es très exposé aux médias. Et c'est facile, entre guillemets, de critiquer et de... Mais parce que ça fait vendre aussi, tu vois.
Ouais, après, c'est vrai que moi, je parle de ça parce qu'en fait, des exemples... D'un point de vue personnel autour de moi, des amis athlètes de haut niveau, ou même là récemment, je pense à Emma Oudjou, je ne sais pas si tu as suivi, qui est elle faisait de l'athlétisme et elle a arrêté sa carrière de haut niveau parce qu'elle a dit je me suis fait broyer en fait par le système français, quoi. Moi, j'étais passionnée par l'athlétisme, vraiment c'était le truc qui me faisait vibrer, c'est le truc qui me faisait le plus plaisir dans la vie, sauf que le système français. En gros, je peux essayer de retrouver exactement la phrase qu'elle a dit parce que c'était hyper. Elle a dit que ça avait été ravageur et hyper violent pour elle et qu'elle, du coup, en fait, elle n'était pas faite pour être dans ce système français-là. Elle était à l'INSEP, pour le coup.
Ouais. Et voilà. Je me retrouve pas mal dans ce qu'elle dit. Après, est-ce que c'est une généralisation ou est-ce que c'est nous, en tant qu'individus, qui sommes pas malléables à ça, tu vois ? Parce que.
Bien sûr.
On avait cette certitude qu'on aspire à mieux ou différent et que. Ben, tu vois, ce que je ressens de similaire avec elle, c'est cette passion qui nous anime. Et est-ce que cette passion très forte, elle est vraiment compatible avec le haut niveau et la performance, tu vois ? Ou est-ce que tu dois être passionné et vibrer pour la performance, pour être un très bon sportif de haut niveau ? Tu vois, je sais pas trop.
Parce que toi, au final, dans ton parcours, ça, donc là, on s'est arrêté sur un peu le moment où t'es qualifié pour les Jeux Olympiques. Ta carrière, elle s'est pas finie à ce moment-là. Parce que continué encore quoi, 4 ans derrière.
Ouais. ouais, 3 ans même. Et ouais, parce qu'en plus, je me qualifie pour les Jeux derrière et quelques mois après. Donc, je suis qualifiée un an avant et quelques mois après, je suis au bout du rouleau, tu vois. Parce que je pense que ce surménage, surentraînement, il a commencé à peu près quand je suis rentrée de cette compète là où j'ai explosé mon record de points. Ouais. Je suis sur une super dynamique, donc je n'envisage même pas de m'arrêter ou de ralentir, tu vois. Et comme il y a un énorme décalage avec mon entraîneur, en fait, lui, je pense qu'il prend ça comme « Bon, bah, elle sait mieux que moi, c'est ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'en répéter 10 au lieu de 2, que je vais la laisser faire, tu vois. Je ne vais pas m'interposer. De toute façon, je ne vais pas être celui qui la limite ou qui la lui interdit parce que de toute façon, elle en fait qu'à sa tête. » C'est un peu l'image que j'avais, tu vois, alors que... Quand tu à l'intérieur, c'était pas du tout ça. C'était plutôt, tiens les gars, aidez-moi.
Aidez-moi,
je suis toute seule,
ouais,
je suis en train
ouais.
de. Et tu vois, en fait, là aujourd'hui, je me rends compte à quel point il y a eu un décalage énorme entre ce que moi je ressentais et ce que de l'extérieur, notamment l'entraîneur en question, qui était le premier concerné, ressentait et percevait. Tu vois. Et je peux pas regretter non plus aujourd'hui parce que je sais que sur le coup, j'ai tout essayé. Et c'est compliqué, tu vois, de voir à quel point. Enfin, tu sais, c'est tellement. Il y a tellement de choses par-dessus parce que t'as quand même. Même si j'étais pas dans un sport des plus médiatisés, t'as quand même des pressions fédérales, t'as quand même des budgets, t'as quand même des déplacements, t'as quand même des contraintes de performance et que tu ressens à travers ton entraîneur, tu vois. Et je me suis jamais sentie protégée, tu vois, par cet entraîneur-là. Comme j'ai pu l'être ou me sentir avec Chava en Australie alors qu'il me connaissait depuis quelques semaines. Tu vois, ce côté, tu vois, ton entraîneur, il est prêt à faire écran pour toi, tu vois, si jamais la Fédé vient te chercher des noises ou un truc tout con, mais en compète inter, une décision arbitraire qui se passe mal, arbitraire, c'est pas ça que je voulais dire, des arbitres, ouais. Mais c'est le lapsus, c'est drôle.
J'avoue.
Tu vois, cette capacité d'un entraîneur à faire écran pour toi, quoi qu'il arrive. Je repense à, par exemple, Aurélie Muller aux Jeux Olympiques, tu vois, où elle est tellement en état de choc, c'est son staff qui fait écran et qui s'interpose. Et moi, j'ai l'impression que jamais quelqu'un aurait fait ça pour moi, tu vois. Et quelque part, du coup, j'en souffrais, mais du coup, l'entraîneur, il devait peut-être le percevoir comme un rejet ou comme il n'était pas à la hauteur. Enfin, tu vois, en fait, c'est un truc, une espèce de schéma où pour s'en sortir, il aurait juste fallu qu'on arrête de travailler ensemble. J'allais dire d'être ensemble.
Non, mais c'est ça, en fait. Non, mais c'est exact, d'être ensemble, finalement. Parce que, on parle des relations comme.
Je prends des grosses pincettes parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'abus, tu vois, entre les entraîneurs et les entraînés.
Ouais.
C'est un peu un sujet actuel en plus, donc je prends des grosses pincettes. Mais c'est vrai que pour moi, un rapport entraîneur-entraîné, ça s'apparente à une relation de couple. À prendre avec des grosses pincettes, encore une fois. Mais c'est quelqu'un que je voyais beaucoup plus que mon propre mec ou ma propre famille, tu vois. Et inversement pour lui, quoi. Il nous voyait plus que sa copine ou ses parents. Donc c'est compliqué à gérer, et d'où la communication. Et
mais t'as changé d'entraîneur après. T'es pas resté
tard.
Avec lui.
Après les Jeux de Rio, du coup après 2016, c'était lui l'entraîneur olympique. Donc on savait que c'était, et moi j'étais qualifiée. Donc il y a pas 50 options possibles. Et là pour le coup, la Fédé m'a bien fait comprendre par la manière forte que c'était ça ou rien en fait, et que j'avais plutôt intérêt à bien la fermer parce que sinon. Je venais pas au jeu, quoi. Donc, j'étais là, oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, j'ai vraiment envie d'aller au jeu? J'ai eu une période où je me suis dit, en fait, non, flemme. Pas flemme, mais je me suis dit, là, je pars pour un cauchemar d'un an. Donc, tout ça, pourquoi? Pour dire que j'ai fait les jeux, parce que dans des conditions pareilles, c'est même pas envisageable de faire une perf. Donc, pour dire que j'ai fait les jeux pourquoi, en fait, si c'est un cauchemar Donc j'en ai parlé à mon entraîneur, et je me rappelle qu'à cette époque, sa tête avait un peu changé en disant « Attends, là, t'es vraiment sérieuse? T'envisages vraiment d'arrêter maintenant alors que t'es qualifiée pour les Jeux ?» Et il m'avait quand même dit de bien réfléchir.
En fait, il a tilté parce que finalement, tu remettais en question le rêve ultime de tous les sportifs.
Alors que je l'avais, tu vois, à portée de main, j'avais juste à... même pas à progresser, tu vois, j'avais juste à laisser les mois passer, tu vois, et à continuer au moins... même pas continuer aussi dur, tu vois. Il y avait presque plus rien à faire, entre guillemets. Il fallait juste que j'arrive en un morceau au jeu, quoi.
Ouais.
Donc au final, j'arrive en un morceau physique. Mais.
En plein de petits morceaux.
La première chose que je fais quand j'arrive au village olympique, c'est je vais voir le staff médical et je leur dis pourriez pas me donner un truc pour dormir, parce que ça fait une semaine que j'ai pas dormi plus de 3 heures par nuit, donc ma compète est dans 5 jours. Et là, ils me disent ah! Ok, viens voir, on va parler un petit peu. Donc, au final, après, c'était en octobre, et donc je réfléchis et je me dis, c'est vraiment... Je vais le regretter. Je pense que je vais regretter plus si j'abandonne. On revient à l'abandon. Ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, et à l'échec, que si j'y vais malgré tout, et que même si ça se passe mal. Et je sais que ça va mal se passer, je sais que ça va être un cauchemar.
Et ça a été le cas.
Ça rate pas, tu vois. Mais je fais le choix d'aller au bout pour vivre ça, en fait. Et dans un sens, aujourd'hui, je regrette pas parce que je suis allée au bout, tu vois. Mais à quel prix? Et tu vois, on te demande souvent est-ce que si c'était à refaire, tu rechoisirais pareil? Là, c'est compliqué. Je sais pas. Je pourrais pas dire non, c'est sûr que non. Mais d'un autre côté, maintenant que je sais par quoi je suis passée, je pourrais pas dire un oui franc, tu vois.
Mais en même temps, tu l'as fait. C'est comme ça. Et c'est aussi ce qui t'a amené à ce que t'es aujourd'hui. Donc,
ouais, c'est ça.
C'est toujours compliqué.
Et puis, c'est quand même les Jeux Olympiques. Et puis, voilà. Donc,
et c'est vrai que derrière les Jeux Olympiques, finalement, moi, quand j'écoute ton récit, je me dis ok. Arrête, en fait. Voilà, tu vois.
C'est ça. Après les Jeux, je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? on part tous en vacances parce qu'il y avait une ambiance de merde hein, dans l'équipe. Parce qu'on arrive au paroxysme de la mauvaise ambiance et de... On n'arrive plus à communiquer à ce moment-là parce que ça fait 4 ans qu'on essaye, tu vois. Et puis même avec... ça se ressent dans l'équipe. Mes deux coéquipiers, Mathieu et Benjamin, ça se passe pas non plus super bien. Enfin, tu vois, c'est... Je te dis, on est H24 ensemble, surtout l'année des Jeux. J'avais compté, je passais plus de 6 mois avec eux. Donc, c'est 24 heures sur 24 ensemble. Mmh. Bon, on dort pas dans le même lit ni dans la même chambre, mais c'est tout comme parce qu'on se voit au petit-déj, on se voit au dîner. Enfin, tu vois. Ça se passe trop mal. Donc, tu vois, il n'y a même pas l'ambiance de groupe où... Enfin, c'est compliqué, quoi. Et au jeu, donc, je passe même pas en demi-finale. Je fais 19e à 10 centièmes de... Ouais, c'est ça. Non, attends. Un dixième, pardon, de la 18e place qui m'aurait qualifié pour la demi.
Ouais.
Avec un total, tu vois, je t'avais parlé de 370 tout à l'heure. Je fais un total de 285, un truc
d'accord,
comme ça. Ouais. Et à un dixième, je passe pas. Donc, c'est... Tu sais, c'est comme l'acte manqué par excellence, tu vois.
Ouais, tu t'es saboté un peu.
Ouais. Puis même si j'avais voulu le faire exprès, de faire 19e avec si peu de différence, j'aurais pas réussi, tu vois. J'aurais fait, je sais pas, 15e. Et du coup, tout le monde est hyper déçu pour moi. Et moi, vraiment, le sentiment que je ressens à ce moment-là, c'est du soulagement. Et je me dis, ça y est, c'est terminé. Oh là là. Mais... Et du coup, après ça, je me pose pas trop de questions. Je me dis juste, c'est terminé. Je me rappelle, je suis restée une semaine au Brésil avec mes parents qui étaient venus pour la compète. Je me rappelle presque de rien. Franchement, c'est une espèce de gueule de bois qui dure une semaine. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans les vapes. Enfin, pas dans les vapes, dans le sens, dans la brume. Tu vois, d'être le fantôme de moi-même. Et j'ai 3-4 flashs de ce qui se passe la semaine d'après, mais c'est tout. Puis je rentre en France et... Et puis il avait plus ou moins, j'ai même pas parlé à mon entraîneur, tu vois. Je crois que le dernier contact, c'est je sors de la piscine après ma compète, il m'attrape par le bras et je me dégage et je m'en vais, tu vois. Alors que jamais j'ai été dans des comportements, parce que c'est quelque chose d'assez violent dans un sens, tu vois. De même pas, je lui parle ou on se regarde. Je crois qu'on se parle même pas après. Et du coup, je me dis bon bah je prends le temps, je rattaque ma dernière année de kiné en septembre. Et je me dis, bon, bah, on verra. Il nous avait dit, prenez le temps et vous me réécrivez, je sais pas, fin octobre, début novembre. Et en fait, très rapidement, je sens l'appel du plongeon qui me manque, tu vois, au bout de même pas un mois. Et je me dis, bon, ok, c'est là, je l'ai vu, mais tranquille. Tranquille, parce que, ouais, j'ai besoin de temps quand même. J'attends encore un petit peu et puis, tu sais, t'as quand même les calendriers, quoi. Tu fais des rétro-planning, t'as ta première compète en janvier et... Plus tu t'arrêtes, plus tu mets de temps à reprendre. Donc, t'arrêter, c'est bien. Et puis, je me sens un peu sous pression parce que je me dis, ben non, j'arrête pas, en fait. Enfin, je continue. Et en fait, quand je reviens, ça, c'est impossible de revenir, tu vois, dans le... Et puis, lui, il me laisse pas revenir non plus. Parce que je pense qu'il en a chié aussi de son côté. Et il est pas prêt à repartir dans le même truc. Et d'un côté, moi non plus. Et en fait, c'est là que je change d'entraîneur. Donc, je pars à Strasbourg début janvier. Et donc je fais une saison à Strasbourg et c'est cette saison-là où je fais championne d'Europe, championne du monde par équipe. Et c'est un peu le sursis qui m'est accordé par le destin, je pense, parce que d'un point de vue individuel, toutes mes compètes c'est une cata. Je continue à faire des contre-perfs, mais dès que je suis en équipe, je me surpasse. Ouais. Parce que je suis en manque désespéré d'humain en fait. Et de partage et de connexion et en fait Alexis, l'entraîneur de Strasbourg, qui est aussi un très bon ami de Mathieu. En fait, il arrive à recréer ça entre nous. Et du coup, peu importe l'entraînement, parce que les capacités, je les ai. Et aujourd'hui, ça m'impressionne encore, parce que c'est même pas... Ok, oui, j'avais un fond d'entraînement, bien sûr, tu vois, mais le matin même, je fais une compète à moyenne, et le soir, je fais championne du monde, tu vois. Et c'est pas parce que les autres ont raté, c'est parce que j'ai fait une putain de compète. J'ai fait mes meilleurs plongeons de ma vie. Et tu te dis, mais c'était la même journée, hein. Ok, tu peux avoir une différence entre le matin et le soir, mais... pas aussi grande. Et donc voilà, j'ai eu ce sursis là en 2017, et puis après j'essaye de continuer. J'ai un autre entraîneur après, un entraîneur australien qui arrive en France, donc c'est pas le Chava, mais c'est le même genre, et ça se passe trop bien, et c'est l'entraîneur qu'il me fallait, tu vois. Mais sauf que j'en peux plus,
c'était trop tard en fait.
C'était trop tard. Et donc lui, il arrive en 2018. J'avais arrêté quelques mois parce que je sentais que j'en pouvais plus, tu vois, que j'avais besoin de me reposer et de breaker. Et en fait, lui, il arrive l'été 2018, et donc moi, ça me donne envie de reprendre, forcément. Puis j'ai les Jeux de Tokyo en ligne de mire, parce que j'ai tellement mal vécu Rio que j'ai trop... Enfin, mon défi, c'est ça, c'est de refaire les Jeux et de les vivre comme un rêve de petite fille, quoi. Et puis, bah, finalement, ça marche pas, parce que c'est trop tard, quoi. Ce qui a été très dur, en fait, quand j'ai arrêté en 2019, c'est que j'avais enfin tout ce pourquoi je m'étais battue, ce que j'avais cherché, ce que j'avais espéré pendant ces années. C'est-à-dire, le jour où je décide d'arrêter, je reçois un coup de tel où on m'annonce un contrat d'image, tu vois.
Okay.
Donc, ça veut dire comme un CDI, tu vois, payer à t'entraîner et à faire des perfs. Donc, en partenariat avec une entreprise. J'ai cet entraîneur chinois, australien-chinois. Je vis avec mon copain, on a un super appart, on a notre équilibre. J'ai tout. Sur le papier, j'ai tout.
Mm.
Mais c'est trop tard et tout est cassé à l'intérieur, quoi. Et donc là, commence le début du chantier de... Tu ouvres la porte intérieure et tu te dis,
allez.
Ok, en fait, t'es en une pièce physique de chair, mais à l'intérieur,
là,
c'est de la glace pilée, les gars.
Ouais. Et ça, à quel moment, en fait, ce que tu dis, en fait, t'as arrêté ta carrière un peu du jour au lendemain.
Ah, complètement.
T'as dit que tu pouvais plus, en fait, qu'il y a eu une cassure et tu t'es levé un matin limite en disant.
Bah après, tu vois, intérieurement, tu vois, mon copain de l'époque avec qui je vis, il suit ce cheminement et lui, il est pas surpris. C'est la seule personne qui est pas surprise parce que...
Ça, je trouve ça dingue, par contre. Que, en fait, toutes les personnes autour de toi, personne n'est remarqué.
Non.
Que t'étais complètement broyée.
Personne. Personne l'a vu, personne l'a remarqué et personne l'a compris, en fait, surtout. Et moi, à ce moment-là, j'ai aucune force d'expliquer aux gens pourquoi... Alors, je prends le temps quand même de le faire avec mon entraîneur parce que lui, pour le coup, je suis attachée à lui et je tiens à lui quelque part et je me sens... C'est important pour moi qu'il comprenne, en fait, parce que... Et donc, je lui annonce ça. Pour lui, c'est du jour au lendemain, il le voit pas venir. Et il me dit, ok, prends une semaine pour réfléchir et on se revoit la semaine prochaine, même heure. On prend un café ensemble à Vincennes et je lui explique un peu le cheminement et après ça, tu vois, il me fait une accolade, un hug. Et il me dit, merci d'avoir pris le temps, maintenant j'ai compris. Et je suis triste, je vais pas te dire le contraire, mais je chercherai jamais à revenir te voir pour te dire de reprendre ou quoi, parce que j'ai compris à quel point tu vas mal et à quel point t'es malheureuse, quoi. Et c'est les deux points, et je suis hyper reconnaissante de ça aujourd'hui, parce que pour moi, à ce moment-là, il y a deux personnes pour qui c'est important, pour qu'ils comprennent, quoi. C'est cet entraîneur-là et mon copain de l'époque. Parce que c'était les deux personnes qui faisaient partie de mon quotidien et qui me voyaient à l'intérieur, en fait. Mais je me dis à quel point j'ai caché ça à tout le monde, tu vois. Je le compare souvent à, tu sais, des filles, ou pas que des filles d'ailleurs, mais aux troubles du comportement alimentaire, ouais. Où on dit souvent que c'est des grandes manipulatrices ou manipulateurs. Parce qu'en fait, les gens, ils font tout pour que les gens autour ne s'en rendent pas compte. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais un peu là-dedans, sans parler de troubles du comportement alimentaire,
cacher ton état.
Mais à moi-même aussi, parce que quelque part, j'aurais jamais tenu autant si je m'étais posé des questions. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on m'a jamais donné la parole non plus, tu vois.
Ouais.
Et je me souviens une fois... En rentrant de la piscine olympique, je m'entendais beaucoup très bien avec les Canadiens, l'équipe canadienne. Et un jour, dans le bus, je me retrouve assise à côté du... Je sais pas si c'était un psychologue, mais en tout cas, il était là pour à peu près ce rôle-là, pour l'équipe. Et très sympa, et du coup, je parlais souvent avec lui, mais comme avec les autres membres de l'équipe. Et en fait, un jour, il me dit... on était assis à côté dans le bus, et il me dit, mais... comment ça va, toi, en fait, Laura ? Je crois que je me suis mise à pleurer quand il m'a dit ça. Enfin, pas pleurer, mais j'ai les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais... En fait, personne m'a jamais demandé ça. Mais moi, la première, personne m'a jamais demandé si ça allait ou pas, tu vois. Limite, ça m'a émue de me dire, ah, mais j'ai le droit de dire comment ça va, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je mets en opposition le côté Australie-France, c'est qu'en fait, en France, on m'a jamais demandé si.
Mais
si
du coup, ça me fait rebondir. Mais t'as jamais eu de suivi psychologique ?
Si, j'en ai eu, mais tard, trop tard, je pense.
Ouais.
J'en ai eu. Comme, Laura, elle va pas bien, on va lui mettre un suivi psy, tu vois.
Oui, ouais, c'est quand les dégâts sont déjà faits.
Exactement. Ouais. Et j'ai même vu un psychiatre quand j'ai arrêté la première fois. Parce que quand j'ai arrêté la première fois, en fait, un soir, je me mets à pleurer, je m'arrête pas pendant 48 heures.
Mmh.
Juste d'épuisement, tu vois. Donc là, je vais voir mon entraîneur qui me dit « Ouais, non, viens pas à l'entraînement, là. Et va voir donc, notre médecin d'équipe et tout ça. » Et lui, il me dit... en fait, dès qu'on me parlait, je me mettais à pleurer. Il me dit, ce serait bien que tu ailles voir mon collègue, là, un psychiatre. Donc, je vais voir ce psychiatre et qui me dit, mademoiselle... Je lui parle pendant une heure, je pense. Parce qu'il me dit, vous en êtes où dans votre vie ? Limite, il me dit, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes reposée ? Donc, en fait, je remonte en arrière et puis je remonte jusqu'à ma naissance. Et il me dit, bon, bah, je crois que là, vous allez commencer par vous reposer. Et je suis là, me reposer, mais combien de temps? Un week-end? Un week-end de 3 jours, peut-être? Il était là. On va commencer par 3 semaines, 1 mois, et puis on va essayer de se voir tous les mois. Et puis, tu vois, avec le recul, ça me fait rire parce que je me dis, tu sais, j'avais besoin qu'on me dise, qu'on me donne des délais, qu'on me donne des trucs. Et puis j'avais peur de ce qui allait se passer parce que plus je disais comment ça allait, plus je me rendais compte à quel point c'était un chantier et à quel point ça allait pas et à quel point j'étais au bout du rouleau, tu vois. Tu vois, le bout du rouleau, bah, encore le bout et puis le bout, tu vois. Et même le mot fatigué ou au bout du rouleau, ça n'avait plus aucun sens pour moi, quoi. C'était même pas que de la fatigue, c'était dans toutes les dimensions. Et du coup, j'arrête 4-5 mois et je le vois tous les jours. Tous les mois. Et puis je rencontre l'entraîneur chinois-australien et puis je me dis, bon, j'ai l'occasion dont j'ai toujours rêvé, donc je reprends. Mais en fait, en septembre, quand je reprends, je sais que c'est trop tôt. Mais je reprends quand même parce que rétro-planning et Tokyo 2020 et tout ça est objectif. Donc c'est bien, tu t'es accordé une petite pause, mais là, c'est fini, tu vois. Donc il faut revenir et bah, en fait, ça marche pas. Et je lutte mois par mois, semaine par semaine. Vraiment, j'ai aucun regret sur la manière dont j'ai repris parce que il m'a super bien accompagné et j'aurais pas pu être mieux accompagné par cet entraîneur-là à ce moment-là. Mais juste, bah, c'était trop tard et ça marchait plus. Et en fait, ouais, c'est du jour au lendemain parce qu'un matin, je me lève et je devais avoir pas bien dormi ou mal dormi. Et je me lève le matin et je dis, bah, c'est fini. Ça y est. J'ai plus la force. J'ai plus ce truc-là, ce verrou qui dit, allez, tu tiens. Comme si le moteur, il démarrait pas. Et je regarde mon copain et je lui dis, c'est fini. Un peu de la même manière que quand j'arrête la gym, tu vois, j'y retourne pas. Et j'ai pas souvenir qu'il ait été surpris, lui. Je lui dis, bah, juste j'y vais parce que je vais le dire, en fait. Mais bon, à tout à l'heure, quoi. Ouais. Et après ça, en fait, c'est le début de la vraie descente aux enfers où je me rends compte, en fait, dans l'état dans lequel je suis et à quel point je me suis complètement oubliée.
Parce qu'après, faut prendre en main tout ça, quoi.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est pendant des années et des années, t'as tout mis de côté et aussi par facilité, finalement, de te dire, ok, je regarde.
C'est bizarre
toi
à dire, mais quelque part par facilité, ouais, complètement.
Parce que je regarde pas ce qui se passe à l'intérieur, je fonce tête baissée, et puis on verra, et peut-être avec un peu de chance, ça va partir. Sauf que bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comment ça se passe, du coup, cette reconstruction? Parce qu'on peut parler de reconstruction.
Ouais, complètement. Après, c'est un chantier, tu vois, c'est un chantier toujours en cours. Ça passe par plein d'étapes. L'étape que j'arrive pas à prendre, c'est prendre le temps.
Ouais.
J'ai du mal encore avec ça.
Est-ce que t'as jamais été habituée à le faire, en fait?
Ouais, aussi. Et que je sais pas le faire. Donc j'apprends, et comme dans tout apprentissage, bah, c'est en dents de scie, tu vois. Et c'est... Des fois, tu arrives très bien, et puis des fois, tu fais 3 pas en arrière, et puis des fois, c'est dur. Et puis et en fait, pour moi, il y a un vrai tournant, là, depuis 6 mois. C'est que je donne vie à ce nouveau projet qui me tient à cœur, dont j'ai eu envie tout de suite, en fait. Dans les premiers jours où j'ai arrêté, je me souviens en avoir parlé à mon ex-copain de l'époque, à Jim, et lui avoir dit, en fait, j'ai envie de continuer le plongeon, à voyager, faire des vidéos, vivre le plongeon, mais différemment, et le partager d'une manière que personne fait, en fait, de faire vivre le plongeon de l'intérieur avec j'avais ces idées de caméra embarquée, et croquer la vie à pleines dents, et en fait... Parce que le plongeon, je sais que c'est une passion et c'est quelque chose qui m'anime et qui me fait vivre. Et c'est quelque chose qui m'a détruit, mais aussi qui me raccroche à la vie quelque part, tu vois. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, non mais Laura, s'il te plaît, juste...
Stop.
Pas stop, mais déjà, juste tranquille, quoi. Mm. Prends du temps, récupère, arrête de partir dans tous les sens, t'as une idée à la seconde, là. Et en fait, au final, tu vois, c'est ça qui m'a animée tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai ce projet-là et ça marche. Et pas beaucoup de gens ont cru en moi au début, tu vois, tout le monde. Puis quand les gens ont vu, mes proches ont vu à quel point ça m'avait détruite, quelque part, ils étaient contents que j'arrête et ils étaient là, bah...
Elle va tourner la page.
Elle va tourner la page. J'ai travaillé comme tout le monde dans un métier simple, une vie simple, normale.
Ouvrir son cabinet de kiné.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça me rendait pas heureuse parce que... Je sais pas, tu sais, quand t'as goûté au métier passion, parce que c'était un métier passion quand je m'entraînais et que je faisais du haut niveau, c'est compliqué de faire autre chose. Et alors je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que c'était pas vraiment fini pour moi ou je sais pas, mais en tout cas c'est toujours resté dans un coin de ma tête, mais j'y suis allée étape par étape un peu pour satisfaire tout le monde. Et puis là ça fait 6 mois, je pense que ouais, en fait je suis rentrée, bon, il y a un an je suis allée à La Réunion en me disant ok, j'ai envie de voyager, je suis kiné, je peux travailler partout en France, donc ça inclut les dom-toms, mais pas vraiment à l'étranger. Et du coup, je me suis dit, bah, les dom-tom, c'est quand même une super idée parce que bah, ça reste la France, je peux travailler comme je veux et ça reste le voyage, l'exotisme, la découverte, des choses que je connais pas, sortie de zone de confort. Enfin, zone de confort encore, faudrait-il en avoir une. Du coup, je pars à La Réunion avec un aller simple. Et dans ma tête, je sais très bien que c'est aussi pour le plongeon parce qu'on m'en a parlé comme une île où il y a une communauté de cliff jumpers. Mais ça, je le dis pas trop. J'en parle pas parce que j'ai envie que ce soit mon truc et je suis pas très sûre. Et tu vois, après tout ce que j'ai vécu dans le plongeon, j'ai envie que ce soit mon cheminement et se ressentir aucune pression ou aucune attente des autres. Et en fait, j'y vais. Et en plus, il y a le confinement en métropole. Donc en fait, c'est pas si évident que ça de trouver du travail. Ouais. Et je commence à plonger et je rencontre tout un groupe là-bas de cliff jumpers. Et je commence à plonger, je m'arrête plus et je découvre l'île et je rentre. En fait, je commence à faire partie à part entière du groupe et je vis sur l'île Intense et La Réunion c'est l'île Intense et je m'arrête plus et du coup j'ai plus le temps de travailler et je me retrouve début février et je me dis ok ça fait 4 mois que je suis là et en fait je pense que le côté partir à loin c'était aussi pour moi l'opportunité de me détacher de toutes ces attentes implicites parce que tu vois mes parents ils m'ont jamais dit tu fais du haut niveau et c'est comme ça et il faut que tu sois excellente et rien d'autre mais c'est plus je sais pas j'avais besoin de me libérer de toutes les attentes, de tout ce que j'avais été, de tout ce que j'avais fait pour être pleinement moi et ouais. Partir un peu à la découverte de qui je voulais être et qui j'avais envie d'être et qui j'étais vraiment au fond. Et je découvre ça à La Réunion, en fait. Et début février, je me dis, ok, bon, bah là, soit je reste ici, tu vois, et je me crée cette zone de confort et cette petite routine. Et puis je me dis, mais non, en fait, je crois qu'il y a quelque chose de big à faire. J'ai toujours eu ce dream big dans ma tête, tu vois, et je me dis, ok, là, c'est la confirmation. Je sais où je veux aller, c'est clair dans ma tête. Donc, je rentre en métropole pour me dire, pour structurer et donner vie à tout ça. Et ouais, c'est ça, structurer et donner vie à tout ça. Et donc, je rentre, je m'achète un van, je commence à l'aménager. J'avais terriblement envie de faire du ski aussi. Et puis, je recommence à plonger en mai en France. Et puis, je rencontre toute la communauté de cliff jumper qui est en métropole en France, qui existe aussi, mais dont j'avais aucune conscience. Parce qu'en fait, en partant à La Réunion, moi, je me disais, oh, j'aimerais trop. J'avais des copains skieurs et surfeurs, et je me disais, j'aimerais trop créer cette communauté de, bah, comme dans le freeride, ouais. Tu sais, la philosophie du surf un peu.
Carrément.
Mais ça, mais autour du cliff, du plongeon, quoi, en pleine nature. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas mon but, c'est pas de faire des compètes et à 27 mètres ou à 20 mètres. Tu sais, le circuit Red Bull Cliff Diving. Peut-être que j'y arriverai un jour, hein, j'en sais rien, et je me dis jamais de nom définitif. Mais aujourd'hui, c'est plus un mode de vie que je recherche, plus que de la performance, quoi. Et mon inspiration, c'est vraiment ces skieurs freestyle ou ces free surfeurs, tu vois, qui vont voyager pour surfer les plus belles vagues du monde, qui ont toutes leurs particularités, toutes les cultures ou les gens qui vont avec, des découvertes, les voyages. Donc, tu vois, c'est vraiment un truc, le plongeon qui fait partie d'un système et d'un style de vie, en fait. Et c'est vraiment ça que je recherche. C'est vraiment ça qui m'épanouit. Et pour moi, il fallait que je le structure un peu parce que ben, je pense que je peux en vivre aujourd'hui, tu vois. Et du coup, j'ai misé sur les réseaux. Et je pense que c'est une porte d'entrée. Aujourd'hui, j'ai le cerveau en ébullition. J'ai 3 idées à la seconde. J'ai plein d'idées pour la suite. Et je m'éclate dans plonger, dans photographier, capturer ces moments, travailler dans le digital et dans la création avec des photographes ou des filmmakers dont c'est le métier et du coup ils ont des skills incroyables et ça me permet de donner une autre dimension au plongeon et de le partager avec les gens parce que c'est vraiment aussi une dimension qui me tient trop à cœur. Et du coup, cet été, j'ai rencontré le groupe français qui existait. En fait, je pensais avoir à le créer et partir de zéro, mais en fait, tout existait, tu vois, et je me disais, mais comme si, tu vois, t'ouvrais une porte sur un nouveau monde et tu te dis, mais...
Pleine de possibilités.
Tu pensais le créer et que ce soit... Et en fait, tout est là, tu vois. Tout est juste... Il suffisait juste d'ouvrir la porte. C'est tu vois, tu sais, quand t'es dans une salle avec les 10 portes devant toi, tu viens de fermer celle du haut niveau et de la piscine et des Jeux Olympiques et où c'était... c'est bon, je l'ai fermée, celle-là. Et tu te dis, bon, bah maintenant, je fais quoi? Je suis juste dans le hall d'entrée, tu vois. Et tu ouvres, tu en trouves, tu y vas. Et puis, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et tu te dis, mais c'est sans fin, et puis t'as des. Je sais pas, t'en as de partout, et tu sais plus donner de la tête tellement ça va vite, et tellement. Et aujourd'hui, c'est ça, je suis débordée, quoi. Je fais. J'ai même pas eu le temps de me trouver un appart parce que. Et j'ai pas le temps.
T'as pas peur de retomber dans tes travers, justement ?
Très bonne transition. Très bonne transition. C'est ma grosse faiblesse aujourd'hui. Là, tu vois, avec mon voyage à La Réunion, un petit, je commence à me rapprocher un peu trop de la ligne rouge.
Ouais.
Et donc, c'est mon travers, c'est de m'oublier au passage, en fait. Même si c'est passion, même si c'est tout ce qui m'anime, c'est tout ce qui me fait vibrer. Et je dirais même que c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, c'est un peu comme une création d'entreprise. Tu vois, c'est comme quand tu montes ta boîte. Au début, tu gagnes pas de sous, tu t'investis corps et âme, tu comptes pas tes heures. Alors que je suis sur un fond de fatigue chronique, pour ne citer qu'un symptôme, tu vois. Mais, et c'est vrai que j'ai un peu tendance à l'oublier. Et, mais en fait, l'excitation de ce projet qui est mon petit bébé, et c'est moi, tu vois, et personne va le faire à ma place, ça me stimule tellement que ben, je m'oublie un peu au passage, mais quelque part c'est pour moi, donc tu vois, les barrières, elles sont compliquées à mettre, mais c'est aussi un apprentissage, et je m'inspire beaucoup des entrepreneurs, tu vois, j'écoute pas mal de podcasts, ben, plus trop en ce moment parce que j'ai plus le temps. Je m'entends parler et je me dis, tu dis vraiment tous les signes de la fille qui est surmenée. Et là, c'est vrai qu'après La Réunion, je m'étais dit, bon, il faudrait que je ralentisse un petit peu.
Ouais.
Et donc, c'est prévu, j'en ai conscience, donc je progresse. Mais c'est ce que je te disais sur l'apprentissage tout à l'heure en dentiste. Des fois, tu progresses, des fois, t'en as conscience, mais tu redescends quand même et tu refais trois pas en arrière. Donc, ouais.
Est-ce que tu dirais que finalement, t'es un peu dans une phase, là, depuis deux ans et demi, depuis que t'as arrêté, de recherche de toi-même, en fait ?
Ah, complètement.
De ton propre équilibre, de ta propre...
Complètement. Et puis, donc, tous ces lots de montagnes russes émotionnelles avec du positif, parce que vraiment depuis un an, tu vois, je travaille vraiment d'arrache-pied. Vraiment, je compte pas mes heures et c'est un travail un peu invisible que personne ne voit parce que c'est du travail de fond, c'est de la logistique, c'est de l'organisation, c'est de la planification, c'est de la création de contenu. C'est pas juste prendre une photo, tu vois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, mais même un réel de 15 secondes, tu vois. Puis j'avais aucune compétence en montage, en vidéo, j'apprends tout sur le tas, tu vois. Tu me parlais de Photoshop, Lightroom ou je sais pas moi, des réels sur Instagram il y a un an, j'étais là, hein, quoi ? Et finalement, tu retrousses tes manches, ou comme l'aménagement d'un van, tu vois, parce que j'ai aussi fait ça en même temps. Retrousses tes manches, tu vas sur YouTube et puis voilà, quoi. Moi, je suis. Dans ma vie, j'ai l'impression que. Peut-être que j'exagère, mais j'ai jamais rien eu de tout cuit qui est tombé dans mes bras et j'ai toujours travaillé dur pour obtenir les trucs. Donc c'est pas grave, tu vois, c'est ok, mais donc ça me fait pas peur, mais des fois t'es le nez dans le cambouis et tu te dis, oh, quand même c'est dur, hein. Un petit coup de pouce, non, y a pas quelqu'un là. Bon c'est pas grave. Donc après c'est aussi savoir demander de l'aide, je pense que c'est hyper important. Et je le travaille et puis donc là depuis 6 mois je trouve enfin qui j'ai envie d'être et vers quoi j'ai envie d'aller. Mais je fais aussi un travail, ça s'accompagne aussi d'un travail, d'introspection, de se dire, qu'est-ce qui a mal été, enfin, pour pas refaire les mêmes erreurs et pour pouvoir cicatriser en profondeur. Et en fait, je me rends compte que j'ai quand même été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le déni. Et c'est marrant parce que je vais à deux vitesses. C'est à la vitesse... projet pro qui avance super bien, mais il y a aussi le côté introspection sur lequel j'avance à la même vitesse, mais qui s'accompagne aussi avec des lots de gros souvenirs bien douloureux, bien traumatisants, des gros traumas qui remontent. Et du coup, c'est les vraies montagnes russes émotionnelles, tu vois. Donc, c'est assez difficile à gérer.
Et tu bâtis deux projets en même temps, en fait.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est très difficile à gérer parce que, tu vois, presque le plus je brille de l'extérieur, le plus je vais profond en moi et le plus c'est noir. Mais ça veut pas dire que c'est deux vitesses où tu vois genre l'envers du décor, c'est juste deux choses indépendantes, enfin deux choses différentes qui fonctionnent ensemble et qui avancent ensemble. Et c'est vrai que des fois c'est difficile à gérer parce que là tu vois comme à Malte, c'était mon premier voyage pro, mais que je me finançais moi-même. Et là à La Réunion, c'était le premier voyage pour lequel on a cherché du financement et on n'a pas, disons que j'ai pas gagné d'argent sur ce voyage, mais on en a financé une partie, donc c'était déjà une première étape. Et en fait après Malte, où j'avais une vraie stratégie de contenu, tu vois, une vraie Instagrammeuse, quoi. En fait, j'ai une vidéo qui a buzzé. Et au début, je disais, ouais, c'est un petit buzz à mon échelle. Sauf qu'en fait, ça a continué. Et puis, j'étais à fond dedans, tu vois, pour... c'est pas de la chance, tu vois, c'est pas tombé du ciel. Parce que derrière, il y a une vidéo qui a vraiment buzzé, pour le coup. Je pense que si t'as Instagram aujourd'hui, tu as forcément vu cette vidéo. Sur mon compte, elle est quasiment à 180 millions de vues.
Ah, waouh!
Donc, je sais pas si tu réalises, moi non, mais au début j'étais là, waouh, elle a 60 millions! Alors que 2 semaines avant j'étais là, waouh, première centaine de milliers de vues! Ah putain, premier million! Ah, mais 4 millions! Waouh! Et en fait, après, y a eu 3 semaines, je pense, où je prenais entre 5 et 10 000 abonnés par jour, ouais. 5 et 10 millions de vues sur ma vidéo. Je voyais même pas les ripostes tellement il y en avait. Enfin, c'était...
Démentiel.
Ouais, et puis en fait, et je travaillais sur l'organisation de la réunion en 3 semaines aussi, pendant ce temps-là. Plus, tu vois, je fais souvent la comparaison avec la vague en surf, tu vois. Donc, il y a eu la première vague avec la première vidéo. Mais tu vois, la vague, c'est soit t'es statique et donc tu montes en même temps que la vague et dès que la vague elle est passée, tu redescends. Soit tu montes et tu rames, tu la surfes jusqu'au bout. Et puis, donc ça, c'était la première vidéo. Et puis après, t'as une autre vague et t'essayes de la reprendre direct et puis t'enchaînes comme ça. Et puis, en fait, j'ai fait ça tout le mois d'octobre. Donc, je suis arrivée bien au bout du rouleau à La Réunion. Mais et à La Réunion, je pouvais plus tout gérer en même temps. Donc, j'ai un peu ralenti sur Instagram et ça s'est arrêté d'un coup. Donc, ça me montre aussi quelque part, enfin, ça montre aussi aux autres que. Parce que j'ai quand même toujours ce besoin de montrer que je travaille dur et que je mérite ce qui m'arrive et que, regardez, j'ai travaillé dur pour l'avoir. C'est pas de la chance. Du coup, ça m'énerve quand on dit que c'est de la chance. Et je suis arrivée complètement au bout du rouleau et le fait d'arrêter en fait d'être sur un Instagram H24 et d'être sur des contenus et tout, en fait ça s'est arrêté. Du coup j'avais plus cette croissance exponentielle et tout, ce qui est pas plus mal d'un autre côté parce que c'est allé tellement vite que en fait il y a eu un moment où ça m'a un peu dépassé. Je me suis dit attends, enfin c'est trop cool, c'est ce que je cherchais quelque part, mais
il fallait pas non plus
là on est 200 000 les gars, 200 000 ouais. Putain, c'est, je sais pas combien de stades de France, mais si je suis toute seule au milieu de la pelouse, ça fait quand même du monde qui me regarde là. Attendez, je vais me cacher un petit peu. Je reviens dans 10 minutes. Non, je rigole, mais tu vois, j'ai pas eu le temps de me dire ok, comment je veux gérer maintenant, parce que c'est plus le même rapport en fait. Tu vois, avant je répondais à tout le monde, chaque message. Bah, aujourd'hui, c'est juste plus possible en fait. Donc,
est-ce que finalement c'est pas un bien pour un bien, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même bien ce qui t'arrive,
ouais,
mais aussi pour te dire bon bah ok, maintenant déjà je passe à autre chose, plus ou moins. Et en plus, ça me permet aussi de regarder les choses un peu plus consciemment, posément, et maintenant de choisir le rythme que j'ai envie d'avoir aussi.
Ouais, alors c'est difficile parce que je suis toujours dans l'hyper-productivité, ouais. Le résultat. Mon travail actuel, c'est d'essayer d'intégrer, de marquer, d'imprimer dans ma tête et de me définir par ce que je suis et pas par ce que je fais.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, c'est un peu pas mon combat, mais mon défi actuel. Ouais,
c'est le travail que tu fais.
Et ouais, bah oui, complètement. Ouais. Hein. Et forcément, ce que tu fais contribue à ce que tu es. Mais j'ai plutôt envie de le voir dans l'autre sens, de me dire ce que je suis contribue à ce que je fais. Tu vois. Et j'ai rencontré une fille super cet été qui me dit bon, et toi, tu fais quoi dans la vie? Ou tu viens d'où? Et là, j'étais là, bon, alors, vaste sujet. Par où commencer? Et elle me regarde avec ses grands yeux bleus, là, hyper pénétrants, et elle me dit, parce qu'elle avait senti que je m'étais sentie un peu oppressée par cette question, et elle me dit non, mais en fait, t'inquiète pas. Déjà, tu es Laura, en fait, et tu es, et c'est déjà bien. Et quand elle me dit ça, j'étais là, ah ouais?
Cool.
Ah ouais, bah c'est bien en fait aussi de le voir comme ça. Et tu vois, c'est un peu une phrase aussi qui résonne dans ma tête et de me dire je me définis me définir et je suis qui, qu'est-ce que j'ai envie d'être, et sans le rattacher forcément à ce que je fais.
Tu te projettes un peu là sur alors j'imagine que la projection, ça peut être aussi quelque chose d'un peu angoissant. Comment t'envisages avec tout ce que tu viens de nous raconter, avec du coup tout ton passif, les choses difficiles, les choses positives aussi, parce qu'il y en a eu dans ton discours, on l'entend. Comment t'envisages du coup avec tout ce que t'as dans ton baluchon, là le futur.
Bah, j'ai acheté un van parce que le baluchon ça suffisait plus.
C'est clair.
Mais je me projette à fond dans ce projet dans lequel je crois depuis le début et dans lequel je me suis jetée corps et âme. Mais ma projection, c'est vraiment d'arriver à mener les deux, en fait. De ce projet pro et ce projet perso. Déjà, il y a une phase d'introspection pour guérir. Mais pour guérir et cicatriser, il faut regarder tes plaies en face, tu vois, et accepter ce qui s'est passé. L'analyser, l'accepter, le digérer, en fait. Et ça, c'est un gros chantier. Et je sais que j'ai besoin d'en parler, en fait, aujourd'hui. Et avant, tu vois, je l'ai tellement caché. J'ai besoin d'en parler, que ce soit pour moi, pour mon cheminement, mais aussi pour les autres, parce que je me dis, tu vois, ça peut inspirer peut-être une seule personne, mais si ça inspire juste une seule personne, c'est gagné pour moi. Et je sais que, tu vois, j'avais commencé un blog, j'écris de temps en temps sans aucune contrainte de éditoriale ou quoi. Vraiment, c'est mon espace perso à moi où quand j'ai envie de dire un truc, où c'est plus qu'un petit texte Instagram, bah, je l'écris là, mais sans vrai. Enfin, tu vois, limite, je référence pas du tout mes trucs. Enfin, tu vois, c'est vraiment mon espace hors. Ouais, c'est mon espace perso. Mais quand j'avais écrit des petits textes un peu profonds sur mon arrêt ou comment je m'étais sentie et tout, en fait, j'ai eu tellement de retours de gens qui me disaient merci d'avoir partagé ça, merci de nous montrer l'envers du décor. Et de gens qui se disaient, même aujourd'hui, là j'en ai eu un il n'y a pas longtemps avant de partir à La Réunion, j'ai pris le temps de lui répondre. Une je dirais, ancienne nageuse qui vient d'arrêter sa carrière et qui était complètement au fond du trou parce qu'elle a arrêté parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais elle est hyper triste et malheureuse parce que la natation, ça faisait partie de sa vie, quoi. Et du coup, j'ai pris le temps. Ça me tenait vraiment à cœur de lui répondre ce qu'elle était. En fait, je sentais dans son message, tu vois, elle me disait un truc, c'est mon dernier recours, je sais plus trop quoi le faire. Ouais. Enfin, je sais plus trop vers où aller, ni qui aller, ni comment me relever de ça. Mais je sais que c'était une bonne décision d'arrêter. Mais juste maintenant, je suis perdue et je suis malheureuse. Et en fait, du coup, je lui ai répondu en note vocale pour parce que ça m'a touchée vraiment. Ouais. Et je me suis dit, je me suis revue il y a quelques années en arrière et. Tu vois, ce moment où tu te sens si seule, tu te sens si malheureuse et tu vois que ton malheur et tu crois que, en fait, t'es condamnée à être malheureuse et que ce sera ça pour toujours. Ouais. Mais j'avais envie de lui dire ben moi, j'ai pas toutes les solutions et j'ai pas tout réglé, mais je te jure, il y a une autre vie à côté et accroche-toi et ça va aller. Et si t'as pris cette décision, c'est que c'était la bonne pour toi. Et je lui ai vraiment répondu en vocal parce que je voulais qu'elle sente. Qu'elle était pas toute seule en fait.
Ouais.
Et elle m'a répondu un truc trop mignon en me disant ouais, j'ai pleuré en t'écoutant, mais ça me fait trop du bien, merci pour cet espoir. Et vraiment, ça m'émeut d'en parler. Et... Tu vois, rien que cette personne-là, tu vois, ça justifie presque tous mes posts, toutes mes interviews, tous mes trucs qui, accessoirement, me font avancer moi et me font du bien, tu vois. Donc, ouais, il y a un peu les deux, quoi. Je le fais aussi pour
si
moi.
Si t'avais un conseil justement pour aux personnes qui écouteraient ce podcast-là et qui se sentiraient dans cette situation à un moment donné, tu t'es retrouvée dans ta vie, qu'est-ce que t'aurais envie de leur dire? Quelle est toi la phrase ou le conseil que t'aurais aimé qu'on te donne quand vraiment t'étais en détresse pour essayer d'aller mieux ou en tout cas de.
Je pense moi les trucs actuellement qui me touchent le plus et qui me font m'écrouler presque, mais dans le sens positif, c'est en fait juste quelqu'un qui. Il faut réussir à trouver quelqu'un qui peut nous écouter. Alors, premièrement, réussir à en parler. Savoir qu'on n'est pas seul. Et ensuite, réussir à trouver une oreille qui est juste dans l'écoute et la bienveillance sans aucun jugement. Et en fait, c'est compliqué hein, de trouver ça parce que tout le monde, et surtout les gens qui t'aiment en fait en général, ils peuvent pas être neutres parce qu'ils ont toujours un jugement ou parce que ça les blesse aussi de te voir malheureux. Donc ils vont toujours être là à essayer de te trouver des solutions ou à te dire non mais ça va aller. Mais quelque part en fait c'est un déni et c'est te dire ben non mais ça va pas si mal ou non t'inquiète pas. Ben en fait non, juste moi le truc qui m'a fait le plus de bien en fait c'est que quelqu'un me dise je vois à quel point tu vas pas bien et mais tu vas y arriver. Parce que t'es forte et parce que c'est normal, c'est ok. Enfin, c'est pas grave, ça va aller. Et je pense que juste ça, tu vois, ça aide en fait et ça te donne la force de. En fait, je me rends compte que des fois, quand juste je dis, écoutez, là, ça va pas du tout. En fait, déjà presque ça va mieux. Rien que de le dire et de sentir que les gens te regardent et te prennent en compte et te disent, on est là si t'as besoin. Juste ça, en fait, d'un coup, tu vas mieux. Je parle d'expérience parce que c'est aussi un travail que je fais ces derniers mois de dire quand j'ai mes coups de moins bien, de pas rester dans ma chambre enfermée toute seule et de sortir que quand ça ira mieux, mais de dire donc après c'est aussi à nous de choisir et de trier les vraies personnes bienveillantes et qui nous aiment pour ce qu'on est et pas ce qu'on fait. Mais du coup je pense que c'est aussi leur rendre cet amour, enfin c'est ce que moi c'est mon point de vue, d'être capable de leur dire quand ça va pas et de leur montrer mon entièreté en fait, parce que ce que je suis c'est pas que une fille hyperactive, souriante, qui croque la vie à pleines dents, qui saute dans tous les sens, qui fait plein de trucs. C'est aussi des moments où je suis moins bien, où je suis triste, où j'ai mal et où j'ai besoin d'être écoutée en fait et prise en compte. Et je sais que je l'ai fait là dernièrement, juste, et puis ça veut pas dire donnez-moi une solution en fait, ça veut juste dire là je suis pas bien, juste voilà, vous le sachiez, que vous le sachiez, je suis pas bien. Et en fait, quand tu le présentes comme ça, bon après, il faut que ce soit les bonnes personnes aussi, hein, mais moi, je pense à mes deux meilleures copines avec qui j'étais coloc à Paris, qui me disaient est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Et donc, en tout cas, on est là, n'hésite pas si tu veux en parler. Et j'étais là, bah là, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de parler parce que je suis vraiment pas bien, mais merci juste de savoir que vous savez que je vais pas bien et que
la possibilité.
Vous êtes là si jamais j'ai besoin. Et en fait, après, ça allait mieux, tu vois. Et après, je leur ai expliqué, bah voilà, en ce moment, je pense à ça, si ça, je me suis rappelé de ça. Et puis voilà, j'en ai parlé. Et en fait, je me rends compte que du coup, ben, ça y est, le souvenir, il est digéré, il est classé. Et... Bon, c'est pas aussi simple et limpide et linéaire, hein, mais du coup, ben, aujourd'hui, c'est ça mon cheminement. Et en fait, c'est pas si compliqué, mais c'est dur.
J'espère sincèrement que ça pourra peut-être aider des personnes qui écoutent ça aussi, bah, parce que c'est vrai que je sais que souvent on dit que la santé mentale, c'est quelque chose qui est encore très tabou dans le sport, et c'est vrai. Il y a très peu de jeux qui...
Et c'est la santé mentale et ne pas aller bien aussi, parce que tu vois, quand t'as un os cassé, bon bah ça se voit à la radio, c'est objectivé, t'as tant de délais, et puis tu peux reprendre que quand ton os il est réparé. Alors que la santé mentale, en fait, personne peut voir, personne d'autre que toi peut voir comment ça va à l'intérieur.
Ouais, complètement.
Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... C'est ça qui est dur aussi, hein, parce que moi, tu vois, la première fois que je suis allée chez un psychiatre, je voulais qu'il me dise un délai. Mes neurones ou mon cerveau, ma tristesse,
je serais
mon cœur, comment il se répare? Donnez-moi un délai, même si c'est 3 ans, juste, je veux savoir. Mais en fait, non. Ce serait trop beau, trop simple.
Mais aussi, le message que tu portes, et que je trouve qui est hyper important, c'est que même si c'est un long processus et que c'est pas évident et que c'est plein d'étapes et que c'est une vraie reconstruction, comme on le disait tout à l'heure, bah, en fait, il y a un moment donné où ça va mieux aussi, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est aussi, t'as complètement raison, et c'est bien de revenir sur le positif, c'est que mon message, c'est aussi de donner l'espoir, parce que, ben, comment dire, de pas sombrer, entre guillemets, tu vois, moi, j'ai choisi le sens de... En fait, j'ai trouvé le sens de ma vie. Aujourd'hui, le sens de ma vie, c'est d'être heureuse. Et donc, cette quête du bonheur, c'est incroyable, et c'est la vie, et c'est la vie, c'est un cadeau, tu vois. Et ça veut pas dire que ça doit être rose et beau tout le temps. C'est un combat, c'est une épreuve, mais c'est tellement beau. Et c'est ces émotions que je peux vivre, qu'elles soient tristes ou heureuses, mais ça contribue au bonheur, en fait, quelque part. Mais c'est incroyable, tu vois, ce que je vis aujourd'hui. Et alors qu'à un moment donné, je me pensais condamnée au malheur, à la tristesse et à la solitude, tu vois. Et c'est pas du tout le cas, donc. Il y a autre chose en dehors de la dépression et du bonheur. Et je pense que les gens qui sont en dépression, c'est des gens très forts qui sont capables de s'en sortir, tu vois. Et il faut juste un peu de temps, un peu de force et un petit peu de... C'est pas facile, quoi.
De bienveillance envers soi-même.
Ouais, de bienveillance. En fait, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un d'autre. Tu vois, tout à l'heure, je disais une écoute, une oreille. Mais en fait, ça peut très bien être soi-même. Tu vois, moi, j'écris beaucoup. Depuis toujours, et il y a eu des longues années où j'écrivais plus du tout. Et je reprends ça depuis 6 mois, et c'est presque un cadeau que je me fais à moi-même, parce que, ben en fait, je me donne la parole à moi-même, en fait. Et ben, j'écris pour moi, hein. Je veux dire, c'est pas du tout des trucs... Parce que c'est vrai que je parlais du blog tout à l'heure, mais il y a des trucs que j'écris publiquement, il y a des trucs que j'écris vraiment que pour moi. Et puis des fois, je me dis, je me lève le matin, et j'essaye d'écrire tous les jours, mais c'est difficile, parce que je fais trop de trucs. Mais c'est un cadeau que j'essaye de me faire... à moi-même, parce que c'est me donner l'opportunité aussi de me dire comment ça va, comment je vais aujourd'hui. Si ça va mal, c'est ok. Si ça va bien, c'est ok. Mais c'est important de le dire. Et du coup, ça veut pas... Parce que tu vois, je pense à ces gens qui sont vraiment seuls, mais qui peuvent quand même s'en sortir, parce que quelque part, j'ai aussi ce mantra de me dire, tu peux pas demander aux autres ce que tu peux pas te donner à toi-même. Tu vois. Et du coup, si toi, t'arrives pas à toi-même à te parler, en fait... Ça veut pas dire se parler à voix haute. Enfin, chacun a son canal. Pourquoi pas d'ailleurs. Chacun a son canal ou sa manière de faire. Mais en fait, la vie, c'est une introspection, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que il y a tellement de... Tu vois, même ce que je dis aujourd'hui, ça se trouve, dans 10 ans, je te dirai autre chose. Et...
Bien sûr.
Et c'est fascinant. Après, c'est...
Effrayant.
C'est effrayant, c'est laborieux, mais c'est un beau chemin, je trouve.
Moi, j'ai envie de finir sur ces beaux mots-là, parce que c'est emprunt aussi de plein de positivité, finalement, même dans un discours
de vie.
Ouais, c'est ça. Et d'émotions, de sentiments, parce que c'est aussi ça, vivre, finalement. Ouais. C'est ressentir les émotions négatives.
Exactement.
Et les émotions positives, bien évidemment. On préfère toujours ressentir les émotions positives. Mais
ouais, mais quelque part, tu savoures tes émotions positives quand t'as... Tu vois, c'est une espèce
quand
de...
Quand tu sais ce que c'est aussi d'être mal.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Bon, du coup, dernière question pour clôturer cet épisode. Si tu devais donner une définition de ce qu'est une championne, quelle serait-elle ?
Pour moi, une championne, c'est une femme qui... C'est une battante, je dirais. C'est une femme qui va se battre pour avancer, pour être heureuse. Et qui se laissera jamais abattre, mais ne jamais se laisser abattre, ça veut pas dire ne jamais tomber, tu vois, et ne jamais se laisser tomber non plus. Mais en tout cas, c'est une battante, je pense.
Bah écoute, merci beaucoup Laura.
Merci de m'avoir reçue et puis merci de m'avoir écoutée pour tous ceux qui sont arrivés jusque là.
J'espère et je pense qu'ils seront nombreux, en tout cas, je l'espère. Et merci pour ta franchise, pour de dire les choses de façon finalement simple. Et je pense que c'est ton parcours, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui pourront se retrouver dans ce discours-là.
Bah, tant mieux.
Donc voilà, je te remercie vraiment énormément.
Bah, merci à toi.
Et je te souhaite vraiment plein de belles expériences.
Il y en a plein de prévues, c'est sûr. Il y en a plein qui nous attendent tous.
Exactement.
L'espoir et la vie.
Oui. Merci beaucoup, Laura.
De rien.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.